Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les doyens des ambassadeurs accrédités à Kinshasa souhaitent que ce corps accompagne la RDC dans la mise en place des institutions qui seront issues des élections du 20 décembre 2023. Déclaration de Martin Chungong Ayafor, faite hier mardi à Kinshasa à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux avec les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo figure parmi les 15 pays les plus corrompus au monde en 2023 et occupe la 172e position sur 184 pays évalués. C'est ce que révèle le rapport de l'Organisation Transparency International publié hier mardi. Nous recevons dans ce journal comme invité à ce sujet le président de la LICOCO, Ernest Mpararo. Situation très préoccupante à Kimpese au Congo central. 3 morts, une vingtaine de blessés et des dégâts matériels considérables. C'est le bilan provisoire des manifestations des 2 jours passés de la population de ce territoire de Songololo. Celle-ci protestait contre l'insécurité grandissante dans la cité de Kimpese. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. Le doyen des ambassadeurs accrédités à Kinshasa souhaite que ce corps accompagne la RDC dans la mise en place des institutions qui seront issues des élections du 20 décembre 2023. Déclaration de Martin Chungong Ayafor, faite hier mardi au Palais de la Nation ici à Kinshasa, à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux avec les ambassadeurs accrédités en RDC, présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans son allocution, le doyen des ambassadeurs a salué la tenue des élections de décembre dernier en RDC, le professionnalisme de la Commission nationale électorale indépendante et la maturité du peuple congolais. Nous appelons de tous nos voeux à l'émergence effective et réussie de la RDC sous votre mandature, a dit Martin Chungong Ayafor, doyen des ambassadeurs. On l'écoute.
Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année 2023 qui vient de s'achever a été essentiellement une année électorale. Elle a consacré la véritable maturité démocratique du peuple congolais sur votre magistère. Au plan politique, elle a permis d'assister à l'organisation réussie des élections générales conformément au calendrier électoral. Dans le souci d'apaisement du climat social, vous avez relevé la nécessité de la sauvegarde de la cohésion nationale. Vous vous êtes assigné le devoir de bannir la haine, le tribalisme, le clanisme, ainsi que les autres antivaleurs. Vous avez également tendu la main à l'opposition en affirmant qu'elle avait sa place dans ce quinquennat. C'est dans cette optique que vous avez promis de rendre effectif le rôle de porte-parole de l'opposition.
Et toujours au cours de cette cérémonie d'échange des vœux, le président de la République a entre autres évoqué plusieurs actions diplomatiques que la RDC a posées en 2023. Félix Tshisekedi a cité à titre illustratif l'accueil de certaines personnalités telles que le pape François, le président français Emmanuel Macron et l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Cependant, Félix Tshisekedi est revenu sur l'agression dont la RDC est victime à l'Est par le Rwanda sous couvert du M23. Tout en appelant les organisations internationales à sanctionner sévèrement le pays agresseur, le président de la République a notamment réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour obtenir le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et l'éradication des groupes armés. Je vous propose de l'écouter.
S'agissant de cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir: mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées. Je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité.
Et c'est un dossier signé Alain Hirong. Pendant ce temps, au Kwilu, Florence Ilunga, membre de la société civile de Bandundu, plaide auprès du président de la République, père de la masculinité positive, pour la nomination maximale des femmes lors de la formation de son tout prochain gouvernement, et aussi à d'autres postes de prise de décision, comme dans les entreprises. Ces plaidoyers font suite au constat selon lequel moins de femmes ont été proclamées élues, tant au niveau national que provincial. À titre illustratif, dans la province du Kwilu, sur les 39 députés nationaux proclamés, il n'y a que 3 femmes et une seule élue députée provinciale. Florence Ilunga trouve inconcevable que toutes les femmes qui avaient postulé ne soient pas élues. Elle a dit au micro d'Irène Boma.
Vraiment, nous constatons avec désolation la non-représentativité de la femme parmi les élus. En tout cas, c'est une déception étant que femme. Je ne vois pas que toutes les femmes qui étaient candidates ne soient pas élues. Du coup, nous demandons au président de la Cour constitutionnelle qu'il puisse prendre en compte des dossiers des femmes qui ont introduit leur recours. Et nous demandons au président de la République, à qui nous devons hommage pour sa réélection, d'en tenir compte lors de sa formation du gouvernement. Nous sommes en train de mener notre plaidoyer à toutes les autorités du pays. Nous avons des femmes braves, capable de défendre ces pays. Pour ce, nous demandons que le quota de la femme soit respecté. Les nominations de ministres provinciaux, ministres nationaux, des PCA, des DG, que la femme soit représentée le maximum possible.
Et puis, les notables et dignitaires du Kasaï central appellent les chefs de l'État à s'impliquer pour aider cette province à se développer pendant cette nouvelle mandature. Réunis dans un forum, ils estiment que les centres kassaïens ont besoin de voir cette région oubliée, selon eux, les 5 dernières années, être désenclavée pour son développement, notamment avec l'ouverture de plusieurs voies, dont la route Kalambambouji, les travaux du barrage Katende, la chute Mbombo et de grands travaux pour stopper plusieurs têtes d'érosion qui menacent la ville de Kananga. On écoute Emmanuel Isa Kabukapu, leur porte-parole au micro de François Kadima.
Quelque chose d'État dote la province avec des routes asphaltées. Partant de Kananga, Chikapa, Kananga Kalambambouji, Kananga Mbujimayi et Kananga Ilebo. Notre fameux problème de chute Katende. Que le chef d'État fasse d'urgence qu'on débute les travaux de chute Katende plus tard au mois de février-mars. En attendant leur chute Katende, nous avons suggéré au chef de l'État si on peut attaquer carrément les travaux des barrages Bombo. Nous avons 3 barrages qu'on entend ici. Il y a un barrage Bombo, Miyao et Chibajosi. Hormis ça, nous avons les routes et les secteurs agricoles. Nous nous plaignons au Kassaï central dans la ville pour manque d'histoire à manger et tout. Mais nos routes qui peuvent approvisionner la ville posent des problèmes. Qu'ils voient encore les dossiers de la route Kananga, Dimbelenge, Kananga Ndemba, Kananga Kazumba, Kananga Djibaye. La ville de Kananga est en train de disparaître avec plusieurs ravins. Alors il faut qu'il y ait son implication dans cette affaire, dans ce deuxième mandat.
La République démocratique du Congo figure parmi les 15 pays les plus corrompus au monde en 2023, tout comme l'année antérieure. Elle occupe la 72e position sur 184 pays évalués. C'est ce que révèle le rapport de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2023 publié hier mardi par Transparency International. En réaction, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, déplore le fait que malgré toutes les initiatives prises par le président Félix Tshisekedi pour lutter contre la corruption et atteindre des niveaux plus élevés d'intégrité, de transparence et de redevabilité, aucune amélioration significative ne s'est fait sentir dans la lutte contre la corruption. Écoutez l'analyse d'Ernest Mpararo, président de la LICOCO, sur les conséquences qui peuvent découler du maintien de la RDC à cette position. Il a été joint par Jocelyne Moussa Oupondé.
La corruption a des conséquences énormes et particulièrement des conséquences au niveau sécuritaire. Et lorsque l'insécurité est érigée dans un État, on ne peut pas avoir des investissements, les emplois ne pourront pas être créés, étant donné que la plupart d'investisseurs privés ou publics auront peur d'aller investir dans un pays où la sécurité est volatile. C'est ce que le message que nous voulons faire passer c'est que le gouvernement devrait prendre en compte la question de la corruption et que ça soit une question qui est transversale dans tous les sujets, dans toutes les thématiques, pour qu'on puisse commencer à réformer et à lutter contre, efficacement contre ces fléaux-là. Lorsque le chef de l'État avait pris le pouvoir en 2019, il s'était engagé à lutter contre la corruption. Il a créé des institutions, il a créé des services étatiques pour effectivement lutter contre cette corruption. Mais malheureusement, après 5 ans, nous avions constaté que la plupart des dossiers qui étaient auprès des cours et tribunaux, vous serez d'accord avec moi que tous ces dossiers, toutes ces personnes sont libres aujourd'hui. Et pourquoi ils sont libres? Parce que effectivement, c'était un engagement individuel du président Tshisekedi qui n'a pas associé les autres acteurs politiques pour dire, écoutez, nous allons gérer ensemble, mais il y a des limites, et une des limites, c'est lutter contre la corruption. Donc, et c'est pour cela que l'engagement de tout un chacun est indispensable pour lutter contre la corruption.
Le président de la LICOCO, Ernest Mpararo, est notre invité à suivre soupé à la fin de ce journal. Dans la province de la Tshopo, les opérations d'enregistrement et d'identification des victimes des guerres de Kisangani se sont clôturées officiellement le lundi 29 janvier dernier. Plus ou moins 16 000 personnes figurent sur la liste introduite par la société civile auprès de l'administration de Frivao, le fonds spécial des répartitions de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Mais à quand alors les débuts de l'indemnisation proprement dite des victimes des guerres de Kisangani? Réponse dans ce reportage de Jacques Moukonkolé.
Les 16 000 personnes figurant sur la liste de la société civile sont celles qui s'y étaient inscrites sur l'initiative de cette structure. Cependant, le Frivao a procédé à son niveau à l'identification individuelle de tous les prétendants. C'est ce qui ressort d'un point de presse tenu ce mardi par ses communicateurs à son siège. Deba Lolia Bailongandi et Mami Ochudi ont toutefois précisé qu'après cette étape, cet organe va tout d'abord organiser l'évaluation de ses activités au cours de cette première phase. Ensuite, interviendra la certification des dossiers. Tout prétendant certifié sera alors autorisé à ouvrir un compte à la banque. Enfin, interviendra l'indemnisation. Les victimes doivent encore user d'un peu de patience. Mais que retenir de cette première étape? Selon les deux orateurs, certains faits ont été déplorés, notamment la poursuite de l'enregistrement de nouvelles victimes par le comité de l'association des victimes des guerres, la délivrance des faux documents tels que l'attestation de décès alors qu'il n'a pas qualité, des balolia et Madame Ochudi met en garde tout faussaire car il s'expose aux poursuites judiciaires. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, le gouvernement, au travers le ministère des Affaires sociales, a remis hier mardi un chèque à Madame Rita Bola, gouverneure de la province du Maïndombé, pour soulager les sinistrés victimes du naufrage survenu sous le lac Maïndombé. Selon les directeurs de cabinet du ministre des Affaires sociales, dans cet élan de solidarité nationale, le gouvernement ne ménage aucun effort pour secourir les différentes catégories de sinistrés à travers tout le pays, selon la vision sociale du président de la République, le peuple d'abord. Hubert Tetika, je vous propose de l'écouter.
Vous vous souviendrez qu'il y a quelques temps, il y a quelques jours, une semaine ou deux, je pense, il y a eu un naufrage au niveau du Maïndombé. Nous avions perdu des compatriotes. Et c'est pour cela que le gouvernement central a préféré faire un petit geste, c'est-à-dire commencer dans un premier temps à soulager tant soit peu ceux qui ont perdu les leurs et surtout enterrer. C'est pour ça que Madame la gouverneure est venue à Kinshasa et que le gouvernement, lors du conseil, s'est décidé qu'on puisse dans un premier temps donner un petit acompte. Juste pour permettre à Madame la gouverneure et son équipe de pouvoir juste enterrer les morts, et puis en attendant que le gouvernement puisse intervenir convenablement.
3 morts et 20 de blessés selon plusieurs témoins. C'est le bilan provisoire des manifestations de la population de Kimpese au Congo central qui protestait contre l'insécurité grandissante dans cette cité du territoire de Songololo. L'administrateur du territoire adjoint a fait savoir que les échauffourées d'hier mardi ont fait plus de dégâts que ceux de lundi dernier. Signalons qu'en l'espace de 8 jours, 4 hôpitaux, une boulangerie et des domiciles de la population ont été la cible des criminels armés. Une réunion d'urgence du conseil local de sécurité a été convoquée pour dégager les voies de sortie de cette crise, a conclu Innocent Mavungumboko, administrateur du territoire adjoint de Songololo.
Actualité internationale.
Les États-Unis offrent une récompense de plusieurs millions de dollars pour des informations menant à la capture d'un ancien haut responsable du régime d'Omar el-Béchir au Soudan. Alors que le pays est toujours frappé par une guerre intérieure, Ahmed Haroun ancien ministre d'État chargé de l'Intérieur sous le régime El Béchir en fuite et recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis au Darfour entre 2003 et 2004. Et puis la Cour suprême des Comores vient de confirmer la réélection d'Azali Assoumani dans le premier tour de la présidentielle du 14 janvier dernier, malgré les contestations de l'opposition qui ne reconnaît pas toujours les résultats de ce scrutin. Le président de la Commission de l'Union africaine a, dans une déclaration en date du 25 janvier dernier, adressé ses félicitations au président Azali Assoumani pour sa réélection, une sortie diversement appréciée sur place.
L'invité.
Et comme annoncé, nous recevons en invité le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Ernest Mpararo s'exprime sur le rapport 2023 de l'ONG International Transparency qui classe la RDC la 162e sur 184 pays les plus corrompus au monde. Ernest Mpararo s'entretient avec Jocelyne Moussa Oupondi.
Monsieur Ernest Mpararo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Transparency International a publié ce mardi 30 janvier le rapport de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2023. La République démocratique du Congo, comme en 2022, figure parmi les 15 pays les plus corrompus au monde en 2023, avec un score de 20%. Et la LICOCO a publié un communiqué pour réagir à ce classement. Quelle analyse justement en faites-vous ?
Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, Transparency International a publié l'indice de perception de la corruption dans le monde. Et au niveau de l'Afrique subsaharienne, la RDC figure effectivement parmi les derniers pays, parmi les dix pays les plus corrompus, même au niveau de l'Afrique. Et l'analyse que nous en faisons, c'est que, comme vous le savez, la corruption a des conséquences énormes, et particulièrement des conséquences au niveau sécuritaire. Et lorsque l'insécurité est érigée dans un État, on ne peut pas avoir des investissements, les emplois ne pourront pas être créés, étant donné que la plupart d'investisseurs privés ou publics auront peur d'aller investir dans un pays où la sécurité est volatile. Et c'est que le message que nous voulons faire passer, c'est que le gouvernement devrait prendre en compte la question de la corruption et que ça soit une question qui est transversale dans tous les sujets, dans toutes les thématiques, pour qu'on puisse commencer à réformer et à lutter efficacement contre ces fléaux-là.
La RDC est 162e sur 184 pays évalués et la LICOCO déplore le fait qu'en dépit de l'engagement politique du président Tshisekedi de lutter contre la corruption et d'atteindre des niveaux plus élevés d'intégrité, de transparence et de redevabilité, notamment par la création de la coordination pour le changement des mentalités, l'agence de prévention et de lutte contre la corruption et le renforcement de l'inspection générale des finances, la réhabilitation de la Cour des comptes, aucune amélioration significative ne s'est fait sentir dans la lutte contre la corruption. Pourquoi cet état des choses et quelle réponse est adaptée, selon vous, pour en finir avec cette pratique ?
Effectivement, comme vous le savez, lorsque le chef de l'État avait pris le pouvoir en 2019, il s'était engagé à lutter contre la corruption. Il a créé des institutions, il a créé des services étatiques pour effectivement lutter contre cette corruption. Mais malheureusement, après 5 ans, nous avions constaté que la plupart des dossiers qui étaient auprès des cours et tribunaux, vous serez d'accord avec moi que tous ces dossiers, toutes ces personnes sont libres aujourd'hui. Et pourquoi ils sont libres ? Parce que effectivement, c'était un engagement individuel du président Tshisekedi qui n'a pas associé les autres acteurs politiques pour dire, écoutez, nous allons gérer ensemble. Mais il y a des limites, et une des limites, c'est lutter contre la corruption. Donc, et c'est pour cela que l'engagement de tout un chacun est indispensable pour lutter contre la corruption. Et comme vous le voyez actuellement, aujourd'hui, il a été élu encore pour le second mandat, mais s'il ne s'engage pas à sensibiliser les autres parties prenantes politiques, il pourra toujours dire, écoutez, je lutte contre la corruption, mais en bref, il n'y a que lui qui lutte, mais les autres acteurs, les autres alliés politiques ne lutteront pas contre cette corruption et ça sera toujours d'échec à échec. Et qu'est-ce que nous, en tant que société, effectivement, nous devons, société civile, journalistes, les citoyens, nous devons faire pression pour que les politiques prennent en compte la lutte contre la corruption dans tous leurs priorités, dans tous leurs politiques gouvernementales, afin que nous puissions créer des emplois, afin que la justice puisse poursuivre tout ce monde-là, parce que sans justice, nous ne pourrons rien faire.
Merci, Monsieur Ernest Mpararo.
Merci, madame.
Notre invité, Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, s'entretenait avec Jocelyne Moussa Opondé. Et c'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Hirung et mis en onde par Jean-Claude Siala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.